Les miennes de la SF.
Flo toute seule.
Non, il y a moi. Bonjour, bonjour. Ceci est la deuxième partie de l'épisode consacré aux lionnes et à la science-fiction.
Donc, qu'est-ce qu'on a principalement? On a l'utopie.
Oui, ouais. C'est par ça que ça a commencé.
Voilà.
Plus ou moins. Enfin, la dystopie. Parce que l'utopie, on n'a pas vraiment des mondes merveilleux et idéaux, il n'y en a pas.
Ouais, mais ça commence par une utopie qui tourne en dystopie, mais...
Bah, dès le départ, tes utopies, elles sont dystopiques, parce qu'elles sont cauchemardesques pour tous ceux qui rentrent pas dans le moule.
Eh ben, c'est des mauvaises utopies. Parce que, par essence, une utopie, c'est un truc parfait.
Moi, je suis pour le terme de dystopie, de réalité déformée.
Bon, alors, il va falloir que t'écrive à Monsieur Larousse pour lui dire que t'es pas d'accord avec sa définition de utopie.
Bah, l'utopie, pour moi, c'est un monde idéal.
Oui.
Oui, mais il n'y a pas de monde idéal dans la science-fiction.
Mais il n'y en a pas tout court, Flo.
Ben oui.
En tout cas, personne n'a encore inventé ni mis dans un livre.
Si tu veux être étymologiquement exact, il faut dire dystopie.
Bon, alors, tout le monde dit n'importe quoi.
Ben oui, c'est triste
alors,
pour
nous.
Ce sera pas la première fois.
On révolutionne la SF, c'est pas de l'utopie, c'est de la dystopie.
Ah mais bon. Non, on révolutionne rien du tout. Moi, je te dis ça parce que... Toutes les tables rondes auxquelles j'ai assisté, personne n'emploie le mot utopie. Tout le monde dit dystopie.
Et ben alors pourquoi dans les docs
parce que c'est fait par des généralistes à la con.
Ben oui, hein. On est énervé, hein. Faut arrêter le café, hein. En l'anticipation, on n'a pas parlé de l'anticipation. C'est plus une réflexion sur où on va et qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi. Donc ça s'appuie sur des données concrètes aujourd'hui, souvent au niveau politique.
Mais ça va souvent à court terme, en fait. C'est ça, ça.
Pas forcément.
Sa spécificité.
Pas forcément.
Mm-hmm.
Ah non, je suis d'accord avec toi.
Bah, écoute, on est là pour s'engueuler, hein.
Moi, j'aime beaucoup l'anticipation. Ça, forcément, c'est jamais un seul genre, quoi. Il y a des mélanges de genres. Tu peux avoir de l'art de science-fiction qui est aussi de l'anticipation, forcément, puisque c'est basé sur les connaissances d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on, ça peut devenir plus tard? C'est aussi de l'anticipation.
Oui. Moi, je sais pas si je mettrais l'anticipation comme genre à part.
Ben, quand je te dis, moi, que la science-fiction, c'est trop généraliste, pour moi, c'est, je dirais que dans l'anticipation, on peut regrouper plein d'autres trucs.
Mm.
Voilà, y compris l'utopie, le cyberpunk, tu vois.
Et on a les fameux voyages dans le temps.
Ouais, ça c'est vite vu, hein. Ça c'est un peu quelque chose qui s'est un peu maintenant perdu, hein. Voyage dans le temps, je crois qu'on a un peu tout vu.
En fait, souvent, la question c'est est-ce que on peut modifier l'histoire? En fait, la question elle est là. Dans le voyage dans le temps.
Elle est aussi dans... C'est tout un tas d'interrogations, on va dire, pour faire beau, métaphysiques.
Mais c'est, tout est métaphysique.
Et si je vais dans le futur, ça se passe quoi quand je reviens dans le passé? Et si je vais dans le passé, après je reviens à mon présent, ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Voilà, on se pose plein de questions parce que c'est pas trop bien comment ça marche encore.
Les lionnes de la SF, plus qu'un podcast, hein.
Le clonage.
La seule histoire de clone dont je me souvienne, c'est dans la saga de Miles Vorkosigan. Elle est encore en train de pas connaître ce que je lui dis. De Lois McMaster Buchholz.
Les robots. On en a déjà parlé des robots. Les mutants. Là, c'est un grand thème dans la SF, les mutants.
Oui.
Alors après, ça peut être des mutants dont on ne voit pas la mutation, c'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être comme toi et moi. Et c'est quelque chose, c'est des capacités, on va dire, quoi. Des choses qu'on fait avec son cerveau, mais qui sont pas, ça se voit pas sur l'extérieur de la personne. Voilà, donc un mutant caché. Et après, il y a les mutants, genre la mouche, tu vois. Des mutants affreux.
Dans tous les récits post-apocalyptiques de l'après-guerre.
Ouais, tout ce qui est nucléaire.
De l'après-bombe, voilà, il y a des mutants
et
affreux.
Après, Il y a aussi les mutants parce que il y a des humains qui ont colonisé une autre planète et il y a une mutation qui se fait, mais là c'est plus de l'ordre de l'évolution en fait de l'espèce.
Oui, ça tu le trouves dans le cycle de Tyrannael d'Elisabeth von Arborg.
On n'a pas parlé aussi des mutants qui sont la résultante d'expériences scientifiques pourries. Ça, c'est pas mal aussi, ça fait partie des thèmes, surtout maintenant avec le gros flic par rapport aux manipulations génétiques. Ouais. Genre, l'eau est contaminée par les antibiotiques, par tous les médicaments qu'on rejette, par ci, par ça, on sait pas comment on va devenir, on va peut-être devenir des monstres parce qu'on a mangé du maïs.
Je voulais revenir aux clones. Dans les clones, t'as quand même pas une constante, mais un thème qui revient souvent, c'est le fameux rêve d'immortalité.
Par le biais du clone.
Par le biais du clone.
Oui. C'est le gros fantasme aussi, réveiller les grands esprits disparus.
Oui.
Pour qu'ils puissent finir leurs tâches et tout ça.
Uchronie, c'est ça. On change un élément du passé et on raconte le présent avec cet élément du passé qui a changé.
Comme par exemple, les nazis ont gagné la guerre.
Voilà. Le maître du haut château, Philippe K. Dick.
Ben moi, après, c'est pas dans la SF, la part de l'autre, et c'est Eric Emmanuel Schmitt. Voilà. Eric Emmanuel Schmitt. Et dans la part de l'autre, en fait, si tu veux, il fait un parallèle, il raconte l'histoire d'Hitler. La vie qu'il aurait eue, si, parce qu'on sait que sa vie a basculé, notamment du jour où il a été refusé à l'Académie des Beaux-Arts. Et en parallèle, la vie réelle d'Hitler. Et si tu veux, finalement... non, je vais pas dire la fin du livre quand même. Ça n'a pas été classé dans la science-fiction. C'est sorti dans des romans, quoi. Mais c'en est pour moi, puisqu'il raconte ce qu'Hitler, la vie d'Hitler s'il avait été un artiste et pas un dictateur sanguinaire, quoi. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que, du coup, comme il part du contexte politique de l'époque pour raconter la vie d'Hitler s'il n'avait pas eu cette vie politique qu'il a eue, et finalement, le résultat, est-ce qu'il est si différent de ça sans lui ? Ça qui est très intéressant. Et ben on arrive aux visions pessimistes. Tout se tient, tout se suit, tout s'enchaîne. Les visions pessimistes. Tu parlais du cyberpunk l'autre jour. On peut le ranger dedans.
Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment joyeux le cyberpunk.
Ben non, hein. En gros c'est on prend un peu. On va dire, pour donner un exemple, Internet, c'est super. Maintenant, tout le monde s'y met, c'est un. Hein. Et là, on pousse, on extrapole à l'extrême. C'est-à-dire, carrément, maintenant, l'ordi, on se les fait intégrer dans la tête. On a des puces de partout, on est branché, on est machin. On vit plus, on mange par des sondes. Et en fait, on est tout le temps sur la toile en virtuel et une espèce de cadavre.
Alors là, le classique, celui qui a fondé le genre, c'est Neuromancien de William Gibson. Et un que j'ai adoré, c'est Samouraï virtuel de Neal Stephenson. Mais j'adore Neal Stephenson d'ailleurs, puisque j'ai l'occasion de le dire.
Oui, ben moi aussi je peux dire les gens que j'aime. Maman, je t'aime. Ah ben voilà, on y vient, tu vois, regarde cette inspiration que j'ai. Dans la SF, il n'y a pas de roman d'amour.
On l'a déjà dit.
Je crois que c'est bien dans Wang de Pierre Bordage où il n'y a plus de procréation physique. Et ça, c'est souvent que ça revient. C'est-à-dire que l'homme a éradiqué les relations sexuelles, c'est plus d'actualité, voilà, on ne se touche plus, on n'a plus de rapport physique. Donc en fait, on va déshumaniser en fait l'amour. Tu vois ce que je veux dire ?
Dans les space ops, on parle souvent des utérus artificiels.
Voilà, finalement, il n'y a plus des histoires d'amour, où se toucher, c'est devenu un truc hallucinant, parce que bon, on part dans des mondes complètement aseptisés, quoi. Et où ça n'a plus aucun intérêt, d'ailleurs, puisqu'on a trouvé le moyen de se reproduire autrement.
Dans la science-fiction féministe, t'as de la bourre, mais il y a la parthénogenèse, donc... Il n'y a pas effectivement procréation comme elle le...
Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la parthénogenèse, c'est la capacité de se reproduire tout seul, sans l'intervention d'un autre. Voilà. C'est bien ça.
Oui.
Voilà, on est d'accord. Donc voilà, bon, ben, il n'y a pas d'amour, zut alors. Je vais être obligée de retourner lire Arlequin. Non, je plaisante. Je préférerais me pendre. Et on en vient. Enfin...
J'aime bien quand tu dis retourner, tu as donc lu Arlequin.
Mais bien sûr, quand j'avais 12 ans, comme tout le monde, non, pas toi.
Non.
C'est comme ça que j'ai appris la vie.
Ah bah oui. La bibliothèque rose.
Moi, je disais l'Iliade et l'Odyssée à 12 ans.
Oh là là, bon bah alors j'avais 10 ans. Oh,
oh prétentieuse.
Non, moi à 12 ans, j'ai lu Fahrenheit. Gna gna gna. Voilà, brûler les livres, quelle horreur. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, un monde sans livres. Et ben voilà. Et maintenant, si tu veux bien, on termine par l'homme qui se bousille lui-même. Le grand thème. Je fais péter ma planète. Je saccage tout, je suis obligée de m'en aller. J'arrive ailleurs et je saccage tout encore. Je m'entretue. Je m'envoie des virus pourris.
Il y a un roman très glaçant de Willy. Comment s'appelle-t-il ? Philippe Wiley, qui s'appelle La fin du rêve.
Et moi, j'ai une référence à Ray Bradbury dans les Chroniques martiennes. Sans parler de faire sauter la planète, c'est Jean-Pierre Andrevon qui nous a écrit Le Monde Enfin et que c'est vraiment horrible, horrible, horrible et que voilà, on a fait un carnage et on est pratiquement tous morts.
Ouais, mais alors tu vois,
ouais.
Tu parles pas du space op. Or, c'est quand même un genre qui est que tu peux pas occulter dans la SF.
Eh ben, on en parle.
Parlons-en.
Ouais, moi j'adore. Moi, Dune, Fondation, Les Guerriers du Silence, tout ça, tout ça.
Et puis c'est même les grands bien. Classiques que sont Lee Brackett, Edmond Hamilton, Jack Williamson, enfin c'est...
Moi, je connais que Peter Hamilton, je connais pas Edmond.
Oui, mais Hamilton, ça veut dire écrivain de Space Op.
Ah bon.
Peter Hamilton, c'est bien Hamilton. Aussi. Hein.
Ouais. C'est vachement bien.
Le dernier bordage, c'est un Space Op.
Ah ouais.
Ouais.
Tu me le prêtes ?
Je l'ai pas.
T'as pas honte ?
Autant t'es gâchée.
Flo, elle a au moins 3000 livres dans sa bibliothèque et elle a pas le dernier Pierre Bourdelle.
Ceci dit, si la Talente veut me l'envoyer gratis, oui. C'est bon, je prends.
Nous, on prend tous les livres. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous avez des livres dont vous voulez vous débarrasser, on en veut bien.
Bon, après, on a le Planète Opéra, mais ça, c'est une variante de la...
Oui, ben...
De la, après, du Space Opéra, sauf que c'est sur une planète.
On peut détailler jusqu'au microscope, hein, après...
On n'a pas parlé de la Hard Science.
Ouais.
Et ça, c'est un genre qui est quand même important, qui part quand même des sciences, des connaissances qu'on a actuellement.
Ben, je t'avouerais que moi, comme je suis quand même... j'ai pas non plus un bagage scientifique énorme... Je fais pas trop la différence entre la hard science et la science-fiction parce que tu fais la différence quand tu t'es vraiment intéressé à la science. La hard science, enfin, je veux dire, le hard, c'est, ça part vraiment de.
Bah, tu sens quand même que ça part de choses parce que c'est vrai qu'il y a des, il y a des explications qui sont vachement plus compliquées.
Ouais, mais bon, pour quelqu'un qui connaît rien du tout, tu sors des explications un peu tordues avec des mots qui ont l'air tout à fait scientifiques et tu vois pas la différence.
Ah, quoi. C'est sûr.
Mais toi, voilà, toi, t'as une culture scientifique, donc forcément. Ça te parle plus. Bon, après, moi, je t'avoue, c'est vrai, je me suis intéressée un petit peu à tout ça. D'ailleurs, quand même, moi, je tiens à parler de Stephen Hawking, parce que franchement, pour les gens qui aiment vraiment la science-fiction et la hard science-fiction, c'est très intéressant de lire ces petits bouquins où, entre guillemets, ils vulgarisent la physique quantique, la théorie des trous noirs, etc., la création de l'univers. Et ça... Pour moi, c'est comme un livre de science-fiction. C'est fabuleux parce que ça a l'air complètement fou, sachant que c'est vraiment de la science. Et là, c'est pas de l'invention. Et bon, c'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant d'aller fourrer un petit peu son nez là-dedans. Justement, après, ça permet de faire la part des choses dans ce qu'on lit, de ce qui est complètement farfelu et de ce qui est vraiment basé sur les connaissances actuelles.
Tout à fait. Tout à fait. Elle lui parle bien. t'as science-fiction, fantasy, fantastique. Ce sont trois genres différents.
Ouais, mais attends, tu pas, il y a des ouvrages qui appartiennent aux trois ou oui, au moins sûr, à deux.
Après, t'as les mélanges des genres, mais ça, c'est à nouveau autre chose. Tu sais comment on reconnaît justement les trois genres?
Non.
Tu connais pas l'histoire du chat? Un soir, après une longue journée de travail,
oui.
L'humain rentre chez lui, il arrive chez lui, et son chat lui dit, dis donc, j'ai faim.
Ouais.
Trois réactions de l'humain sont possibles. Le chat a été génétiquement modifié pour parler, ou alors c'est un robot déguisé en chat.
D'accord.
Le fait qu'il parle est normal, c'est de la science-fiction.
D'accord.
Le chat et l'humain sont dans un monde où les créatures magiques existent et où les créatures qui parlent sont normales. C'est D'accord. de la fantaisie.
Ouais.
Cet humain rentre chez lui, son chat parle, c'est totalement anormal. Il y a émergence d'un élément anormal dans un monde normal, c'est du fantastique.
Pourquoi t'as pas dit ça tout de suite au début?
Ah ben on le mettra au début.
Voilà la définition de la science-fiction, on l'a trouvée. C'est le chat qui était génétiquement modifié. Ou alors qu'il y a un androïde. Si c'est un chat magique, c'est de la fantaisie.
Voilà.
Et si c'est un chat anormal, c'est du fantastique.
Mmh.
Et ben alors, on peut arrêter là.
Ah ouais. Eh bien, on va juste vous dire qu'on vous aime.
Oui.
Et puis qu'on est en train de préparer des super trucs terribles, terribles, mais on vous en dit pas plus.
Et que ben on vous retrouvera bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, lisez beaucoup.
Et oui.